Le coup d'état de Chéri Bibi, chapitre 18. Hors les grilles. Hors les grilles du château, derrière les troupes immobiles, et ne sachant encore à quel ordre elles allaient avoir à obéir, toute la ville se peuplait d'une façon bien singulière. D'abord les habitants, réveillés dans des conditions tout à fait exceptionnelles, étaient accourus pour savoir ce qui se passait. Les bruits les plus contradictoires couraient. Les membres des clubs les plus avancés de la ville s'étaient précipités aux renseignements avec force démonstration de loyalisme révolutionnaire. De toute la banlieue parisienne, des groupes de citoyens accouraient à Versailles. Des fonctionnaires aussi débarquaient de la capitale, avec des mines bouleversées et se ruaient aux grilles, où, comme les autres, ils se heurtaient aux troupes. Aucun titre, aucun grade ne leur servait de sauf-conduit. Frédéric avait bien réglé son affaire, d'après les instructions de Jacques, et une fois la première bordée de démocrates arrivée de Paris et passée, il avait fait tout fermer. Quand la seconde fournée survint avec Pagès, ce fut un beau chambard. Pagès, traînant tout son monde derrière lui, demanda à parler au colonel Brazin d'abord, au général Lavigne ensuite. Les deux militaires furent intraitables. Ils avaient une consigne, ils étaient là pour la faire observer. Ils n'étaient là que pour la faire observer. Ils n'étaient même là que pour cela. Et la consigne était de ne laisser passer personne. « Mais qui vous a donné cette consigne-là »« Le général Mabel. » « Impossible, le général Mabel est arrêté. »« Mabel, allons donc, il est dans la salle du congrès. »«
Vous l'avez vu ?»«
Non, mais on est venu nous transmettre ses ordres. »« Et voici assez, messieurs, je ne suis qu'un soldat, je ne fais pas de politique. »« On m'a dit de venir ici avec ma troupe, j'y suis. »« De ne laisser passer personne, personne ne passera, j'obéis. » Et il tourna le dos aux parlementaires.
« Il est fou !»
fit Pagès entre ses dents. « Venez, vous autres, nous trouverons bien un trou pour passer. » Et ils s'en allèrent, mais derrière eux, le bruit commença à courir de l'arrestation de Mabel, et tous les officiers qui étaient là, et qui n'avaient pas vu leur chef en cette grave occurrence, commençaient à commenter cette extraordinaire nouvelle. Brazin et Lavigne se sentirent beaucoup moins rassurés. S'était-on réellement moqué d'eux en leur donnant des ordres au nom de Mabel? Ils étaient maintenant tentés de le croire. Ils se résolurent à ne plus faire un pas sans un ordre régulier et écrit, et ils regrettaient déjà de ne pas avoir exigé ces garanties dès l'abord. D'autant plus, pensaient-ils, que si Mabel est réellement arrêtée, le commandant Jacques peut faire tout ce qu'il voudra. L'affaire est ratée. Des échos en parvenaient à la foule. À certaines fenêtres de la place, de braves bourgeois armés de lorgnettes regardaient avec assiduité ce qui se passait dans l'immense cour du château. Ils en tiraient des conclusions plus ou moins absurdes. Enfin, ce fut tout à coup comme le déversement de la grande ville dans la petite. Sur le pavé, les autos bondissaient, roulaient, mugissaient. Des cars bondés encombraient les avenues pleines de patriotes ou de révolutionnaires qui chantaient ou hurlaient. Ça et là, on se battait. L'extraordinaire nouvelle du coup d'État était allée réveiller les Parisiens, les avait fait sauter de leur lit, les avait jetés dans tous les véhicules et les amenait à Versailles, soit en curieux, soit en acteur. Beaucoup de femmes du monde étaient venues en auto, et des artistes aussi, dans des toilettes rapides, sommaires. Aussi les restaurants étaient-ils envahis. Dans un hôtel très réputé, il y avait une foule élégante, d'autant plus compacte qu'on était là aux premières loges pour avoir des nouvelles, et qu'il était à peu près impossible d'aller plus loin. Soudain, un homme traversa l'une des salles. Un chapeau de feutre sur les yeux, le col du par-dessus relevé. Et certains qu'il avait reconnus se regardèrent. « La Vaubourg ! Il n'en est donc pas ?» C'était bien la Vaubourg, en effet, qui descendait rapidement dans la cour. Là, il se heurta à une vingtaine de gars costauds à mine patibulaire qui se faisaient servir à déjeuner sur le pouce en compagnie des cochers et des chauffeurs d'auto. L'office avait commencé par soulever quelques difficultés, étant peu désireux d'entrer en affaire avec des messieurs qui n'étaient point de la clientèle ordinaire. Mais alors, un certain marchand de cacahuètes qui était là avait eu une manière de dire au maître d'hôtel « Monsieur est bien dégoûté d'hésiter à entrer en relation avec les premiers patriotes du club de l'Arsenal. Monsieur ne sait certainement point que ces honnêtes citoyens sont des amis de monsieur que voilà, qui est lui-même secrétaire du comité du club de l'Arsenal. C'est-à-dire, mon petit père, que ce n'est point de la petite bière, et que par les temps qui courent, il est bon d'avoir des amis partout. » Le maître d'hôtel avait compris, et s'était empressé de faire servir à ses gens tout ce qu'ils avaient voulu. La Vaubourg parut un peu stupéfait de rencontrer ce joli monde dans ce restaurant élégant. Mais ces messieurs s'étaient empressés de laisser le chemin libre aux bourgeois, qui, sans doute, avaient un rendez-vous d'amour. Il passa. « Tu n'as pas besoin de te cacher, on t'a reconnu !» lui cria le marchand de cacahuètes. Il hâta le pas. Il se rendait à un pavillon qui avait jadis été construit pour la Pompadour. Les chambres en donnaient directement, par des portes-fenêtres, sur le parc. On lui ouvrit. Il y eut une sourde exclamation. La porte fut refermée. « Il a une figure de trahison !» dit l'un. « À ce qu'il paraît que c'est un ami du commandant !» répondit un autre. « À mort le commandant ! Vive la Révolution sociale ! Vive le club de l'Arsenal !» Il y en avait un parmi tous ces gens qui ne prononçait pas une parole et qui paraissait assez mélancolique. C'était Monsieur Hilaire. Il ne pouvait s'empêcher de penser, bien qu'il fût entouré d'amis, aux graves inconvénients de la politique active qui prend des heures bien précieuses au commerce. Et puis, il était bien obligé de se dire que Papa Cacahuète usait de son influence politique et de ses cartes civiques avec une extraordinaire désinvolture. Mais qu'étaient donc tous ces gens-là? Et à quoi Chéri Bibi pouvait-il les faire servir pour le bien de la France, comme il le disait? Enfin, M. Hilaire n'ignorait plus que, à quelques pas de lui, on tentait le plus audacieux des coups d'État, et que, grâce à Chéri Bibi, il se trouvait avoir dans tout ceci une responsabilité qui lui était du reste impossible de mesurer. Si on ajoute à tous ces malheurs d'ordre public les raisons que M. Hilaire avait de ne pas se réjouir dans le particulier, après la scène conjugale qui avait apporté la perturbation dans les magasins de la grande épicerie moderne, on comprendra assez facilement la mélancolie de M. Hilaire. Comme il levait la tête, en proie à toutes ces tristes réflexions, il ne fut pas peu surpris d'apercevoir à la terrasse d'un petit café en face les deux figures bonasses de ses compagnons de la nuit précédente, messieurs Barquimel et Florent, lesquels se levèrent aussitôt et s'en allèrent comme s'ils ne l'avaient point vu. Le fait était extraordinaire. Qu'était-il donc venu faire à Versailles? C'est ce que M. Barquimel était en train d'expliquer à M. Florent, qui ne le savait pas encore. M. Florent, après les émotions d'une journée et d'une nuit particulièrement mouvementées, dormait du sommeil du juste quand il avait été brusquement tiré du lit, à une heure exceptionnellement matinale, par l'arrivée inopinée de M. Barquimel. À toutes les questions que M. Florent avait posées à M. Barquimel, celui-ci n'avait consenti à répondre que par ces mots. « Levez-vous !»« Mais enfin, me direz-vous »« Levez-vous » »« Courons-nous quelques dangers personnels ?»« Nous avons un grand devoir à accomplir. » »« Alors me voilà !» obtempéra M. Florent, tout en tremblant d'inquiétude. Et M. Barquimel avait entraîné M. Florent à Versailles. Il paraissait fort préoccupé, et continuait de ne point répondre à toutes les questions de son ami. Arrivés dans la ville, ils ne furent pas peu étonnés d'assister à un spectacle dont, cependant, M. Barquimel prétendait avoir été averti.
« Vous êtes donc dans le secret des dieux ?»
avait demandé M. Florent stupéfait. « Je savais que l'on allait tenter de renverser la République aujourd'hui, à Versailles, parfaitement. » se rengorgea M. Barquimel.
« Vous saviez tout cela et vous nous amenez dans cette dangereuse cohue ? Pourquoi faire ?»«
Nous devons nous opposer à ce qu'on renverse la République, M. Florent. »«
Mais je vous ai toujours entendu dire qu'une bonne poigne... »«
Moi, vous avez rêvé, et si j'ai pu dire en effet qu'une bonne poigne est quelquefois nécessaire, j'ai toujours pensé qu'elle devait être au bout du bras d'un ferme républicain. » Et non pas d'un soldat de fortune, monsieur Florent.
Vraiment, vous me stupéfiez. Et comment nous opposerons-nous à ce qu'on renverse la République?
En surveillant monsieur Hilaire, tout simplement. Comprenez-vous maintenant?
Mais de moins en moins, monsieur Hilaire a toujours été un des fervents de la Révolution.
Monsieur Florent, taisez-vous. Voici justement monsieur Hilaire. Je vous dirai ce qu'il faut en penser tout à l'heure.
Écoutez, reprit Barquimel au bout d'un instant, voici ce qui m'est arrivé ce matin. Il pouvait être 5 heures. On frappe à ma porte à coups redoublés. Je me lève, croyant qu'il y avait le feu. J'ouvre et je me trouve devant un monsieur très convenablement mis, habillé tout de noir, qui tenait humblement son chapeau melon à la main et me dit « Monsieur Barquimel, s'il vous plaît, puis-je vous dire un petit mot ?»
Je lui réponds qu'on ne réveille pas les gens à une heure pareille. Il me dit que c'est pour mon bien et qu'il a quelque chose de très grave à me confier de la part d'un grand personnage qui désire pour le moment conserver l'anonymat. Je le fais entrer, je lui demande la permission de me remettre dans mon lit, il s'assied près de moi et tout à coup il me dit, me passant sa main sur la mienne,
« Monsieur Barquimel, voulez-vous être décoré ?»
En entendant ce passage inattendu du récit de M. Barquimel, M. Florent devient cramoisi, puis violé. On dirait qu'il va étouffer. En vérité, il suffoque. Enfin, M. Florent peut placer un mot.
« C'était un fumiste »
fait-il. C'est au tour de M. Barquimel de rougir.
« Pourquoi un fumiste ?»
balbutia-t-il. Cet homme parlait très sérieusement et il me l'a prouvé ensuite.
« Pourquoi un fumiste ?»«
Pour rien, toussa monsieur Florent. Continuez. »« Alors je dis à cet homme, continue monsieur Barquimel, que mon plus grand bonheur serait d'être officier d'académie. »«
Évidemment,
acquiesça monsieur Florent en pâlissant. « Et pour cela, que faut-il faire ? » demandai-je à mon visiteur.
« Être un bon républicain. » répondit-il, et un fidèle ami.
Un fidèle ami de qui?
Mais par exemple de monsieur Hilaire.
Ah bien, ce ne sera pas difficile, m'écriai-je. J'ai toujours aimé la République et je ne quitte pas monsieur Hilaire.
Eh bien, quittez-le de moins en moins, conseilla le visiteur.
Avec vous, je n'irai pas par 4 chemins, ajouta cet homme, car vous êtes d'une intelligence au-dessus de la moyenne. Sachez donc que les bons républicains de l'arsenal sont bien étonnés de certains faits et gestes de M. Hilaire. Ils le trouvent tiède par moments et très bizarre dans d'autres. Ils ont besoin d'être sûrs du secrétaire d'un comité aussi influent. Or, ils n'ignorent pas que M. Hilaire est toujours fournisseur de la maison des Touchet, rendez-vous du Subdaboum et de tous ses aristocrates. Enfin, hier, il aurait dû venir au club où on l'attendait et où les plus graves résolutions ont été prises contre les menées dictatoriales de Jacques Ier. Nous ne l'avons pas vu. Pourquoi ? Et voici le fait le plus mystérieux de tous. L'un des premiers personnages du club de l'Arsenal a disparu, n'est pas rentré de la nuit chez lui et l'on a tout lieu de croire quelque méchant attentat. Je vous parle du citoyen Tolosé, que vous connaissez peut-être.
Oui, fis-je, je connais le citoyen Tolosé, c'est un brave républicain. Je l'ai vu souvent chez Monsieur Hilaire. J'avais plaisir à lui serrer la main.
« Quelle blague !» s'écria Monsieur Florent. « Vous m'avez dit 100 fois que cet énergumène vous faisait peur. »
« C'est justement parce qu'il me faisait peur, » répliqua Monsieur Barquimel, « que je lui serrais la main avec plaisir. Il vaut mieux être bien que d'être mal avec les gens qui vous font peur. »
« Après, » fit Monsieur Florent d'un ton très sec.
« Eh bien, après, il a donc été entendu que je surveillerais Monsieur Hilaire, pour son bien. »
« C'est du propre !» s'écria Monsieur Florent. « Vous voilà mouchard, maintenant !»
Eh, Monsieur Florent, calmez-vous. Je vous dis pour son bien, pour qu'il ne lui arrive pas malheur, pour le faire avertir à temps s'il en ait besoin. Et par-dessus le marché, on me donne les palmes académiques.
Monsieur Florent n'y tint plus. Il s'arrêta brusquement, croisa les bras sur la poitrine et dit
« Qu'en ferez-vous, vous, un ancien marchand de parapluies ?»«
Je les mettrai à ma boutonnière, » répondit Monsieur Barquimel. « Et ne vous montrez point si fâché, je vous prie. J'ai encore des choses à vous dire. »
Ce monsieur ne s'en est pas allé tout de suite. Il m'a dit « Vous avez un ami également fort intelligent et qui est fort intime avec Monsieur Hilaire. »«
Ah, il vous a dit cela ?» fit Monsieur Florent, déjà charmé.
« Et il m'a dit que cet ami s'appelait Monsieur Florent et que s'il voulait lui aussi servir la République, il y aurait aussi une décoration pour mon ami Florent. »
Oh ! S'exclama Florent, dont les yeux se brouillèrent et qui serra la main de son ami.
Cela vous fait plaisir, hein ?
Monsieur Barquimel, cela fait toujours plaisir à un honnête homme d'être décoré. Et comprenez-moi, quand cet homme a mérité, comme moi, la décoration,
Monsieur Florent, vous serez décoré.
Il me l'a dit. Vous aurez le mérite agricole. »
Monsieur Florent, cette fois, chancela et devint livide.
« Monsieur Barquimel, » fit-il la gorge sèche, « gardez-le, je ne mange pas de ce poireau-là, non, non. Bon pour vous, monsieur Barquimel, de vendre un ami pour une décoration. Mais monsieur Florent reste monsieur Florent. Adieu. »
« Florent !»«
Adieu, je vous dis, je ne vous connais plus, vous êtes un misérable. Et d'ailleurs, votre République est fichue. »
« La République fichue ? Ce n'est tout de même pas vous qui la jetterez par terre. »
« Elle est dans le ciot. Vous m'avez toujours fait rire avec votre révolution. »
Et comme M. Florent était, dans le moment, entouré par une foule sympathique, il se tourna vers elle et, lui montrant M. Barquimel, qui avait cessé d'être son ami,
« En voilà encore un, » fit-il, qui croit au club et aux révolutionnaires. »
Aussitôt, M. Barquimel fut entrepris par un groupe hostile qui ne le lâcha que lorsqu'il eut crié « Vive le commandant Jacques !» Et Florent s'éloigna en ricanant, diaboliquement. M. Barquimel s'en retourna pour surveiller M. Hilaire, la mort dans l'âme.
« Ça, se disait-il, je ne le lui pardonnerai jamais. »
Monsieur Hilaire et ses singuliers compagnons n'avaient point quitté la cour de l'hôtel, et la porte qui s'était refermée sur la Vaubourg ne s'était point rouverte. Nous avons dit qu'aussitôt que la Vaubourg avait pénétré dans l'appartement, une sourde exclamation s'était fait entendre.
« Tu ne m'attendais pas ?» dit la Vaubourg.
« Non, » dit Sonia. « Que viens-tu faire ici ? Trahir encore ?» C'était, en effet, Sonia Liskine, qui occupait, dans cet instant critique, le pavillon de la Pompadour. Elle avait fait retenir l'appartement la nuit même, sachant les facilités qu'il comportait pour les communications directes avec le château. Mais certes, elle n'attendait pas la Vaubourg. Le prisonnier avait donc pu se défaire de ses liens, ou les gens de Cravely l'avaient délivré, car on avait dû déjà perquisitionner dans son hôtel. Elle trembla pour Jacques et son entreprise.
« Qui donc a trahi la première ?»
demanda la Vaubourg d'une voix sourde. « C'est bien à vous à parler, qui avez failli me faire assassiner. Je savais bien que je vous trouverais ici, dans cet appartement. Il est si commode pour les amoureux de Versailles. Vous vous rappelez ? ajouta-t-il avec un ricanement qui s'acheva presque dans les larmes. « Ah, Sonia, vous n'avez plus aucune pudeur !»«
Quoi qu'il arrive, dit-elle,
je vous demande pardon. »«
Vous n'avez pas à être pardonné, fit-il. Je me suis bien vengée. »«
Qu'avez-vous fait encore ? » s'écria-t-elle, terriblement anxieuse.
« Je ne sais pas si Jacques réussira.
C'est bien possible. Mais au moins, j'aurai eu cette consolation d'avoir tout fait pour qu'il échoue. »
Elle le dressa devant elle, le secoua. Ses yeux étaient durs, sa bouche frémissante, ses mains le déchiraient.
« Quoi ? Quoi ? »
« Je suis allée prévenir Flotard, le gouverneur militaire de Paris, et je crois bien être arrivée à temps pour qu'il fasse de la bonne besogne. Avant de venir ici, j'ai eu aussi le plaisir d'apprendre que, grâce à moi, on avait pu mettre la main sur le général Mabel, qui s'apprêtait à quitter la place de l'Étoile pour rentrer à Versailles, se mettre à la tête de ses troupes. Mabel a été arrêté, jeté à la conciergerie comme un malfaiteur.
Elle ne l'écoutait plus. Ceci était un coup terrible. Elle ne songeait qu'au moyen d'avertir Jacques, qui certainement ne devait rien savoir. À ce moment, la porte de l'appartement sauta, comme si elle avait été arrachée de ses gonds, et une horde se précipita. C'était la bande de Pagès, qui cherchait de tous côtés une issue pour pénétrer dans le château, et à qui l'on avait indiqué ce chemin-là. Pagès salua, demanda pardon, mais tout à coup, ceux qui l'entouraient et lui-même reconnurent Lavoubourg et Sonia Liskin. Cela ne pouvait faire de doute dans l'esprit des envahisseurs qu'ils étaient cachés là pour conspirer contre l'État. De rumeur publique, ils étaient les principaux artisans du coup d'État. Tous s'écrièrent « Voilà nos otages ! Voilà nos prisonniers ! Ce sont les espions du Subdamoun !» Mais d'autre part, la bande était pressée de courir à l'Assemblée. Heureusement, se présentèrent de braves citoyens du club de l'Arsenal qui se proposèrent et qui furent acceptés sur présentation de leur carte civique. Sonia et Lavoubourg furent entourés par ces gars sinistres qui parlaient un argot redoutable. Ils paraissaient obéir un petit vieux dans lequel Sonia reconnut soudain son marchand de cacahuètes de la nuit. Celui-ci, à la dérobée, lui fit un signe de bonne entente et elle respira. Mais un de leurs geôliers d'occasion était revenu de la cour avec la nouvelle que le commandant Jacques venait d'être assassiné. Elle poussa un cri déchirant, cependant que le vieillard bondissait dans le parc avec des jambes de 20 ans. Chapitre 19. Faites vos jeux, rien ne va plus. Revenons à Pagès, qui, suivi de quelques amis, les plus farouches du parti, avait trouvé le moyen de pénétrer dans la salle du congrès par une porte de service. Tous répétèrent derrière lui « Hors la loi ! Hors la loi !» Et ceux de leur parti qui étaient déjà aux prises avec les congressistes et que dirigeait l'impétueux Coudry, clamèrent aussi en montrant le poing au commandant Jacques « Hors la loi ! Hors la loi !» Jusqu'alors, la grande majorité des représentants avait réussi à repousser hors de l'hémicycle les fanatiques de l'extrême-gauche et à défendre le vote qui se continuait en toute hâte, car la prétention des nouveaux arrivants était ni plus ni moins de l'empêcher, de le rendre impossible. Au milieu de cette houle, Jacques essaie de détourner sur sa tête leur fureur. Pendant ce temps, on vote. Il crie, il harangue, il excite ses adversaires d'une voix de tonnerre qu'on ne lui soupçonnait pas et qui arrive à balancer les effets de Pagès. « Vous êtes sur un volcan, hâtez-vous de l'éteindre » crie-t-il aux représentants. « Sauvons la liberté, sauvons l'égalité !»« Hors la loi ! Hors la loi ! À mort le dictateur !»«
Les partisans de l'échafaud ?» hurle Jacques, s'entourent de leurs complices et se préparent à exécuter leurs affreux desseins. « Hâtez-vous ! Moi, je ne veux que sauver la République !»«
Hors la loi !
Je crois avoir donné assez de gages de mon dévouement à la patrie. Vive la nation !»
dans un élan irrésistible, Coudry et les siens arrivent sur Jacques et ses partisans. C'est une mêlée.
« La liberté est violée !» crie Jacques au président.
« Déclarez le vote clos et proclamez le résultat. Le pays n'a plus rien à faire avec cette bande de forcenés. » Mais sa voix n'est plus entendue, et déjà d'autres députés du parti adverse arrivent de Paris et pénètrent dans l'enceinte, venant renforcer Pagès, Coudry et Mulot. Le tumulte grandit, des cris effroyables. « À bas le dictateur ! À bas le tyran ! Hors la loi !»
S'il n'avait pas près de lui de solides huissiers qui envoient rouler à coups de poing ce qui l'approche de tromperie, Jacques serait mis en pièces. Il est aux prises avec les plus violents communistes qui ont franchi les banquettes. Sa poitrine s'oppresse, sa vue se trouble. Mais on entend un bruit d'armes dans le couloir. C'est un peloton de la coloniale qui vient chercher son commandant en péril. La bagarre devient effroyable, le tumulte inouï. Le vote est suspendu. Le président veut parler, mais ne parvient pas à se faire entendre. Il n'y a que des soldats qui puissent mettre un peu d'ordre dans cet affreux gâchis. Ils finissent par arracher Jacques à l'étreinte des forcenés, lui font un rempart de leur corps. Il est entraîné au dehors. On le voit arriver dans la cour, soutenu par deux coloniaux, affreusement pâles, les traits bouleversés, la tête penchée sur l'épaule, presque évanoui. À l'intérieur, les révolutionnaires, qui répètent leurs cris de bataille, leur « hors-la-loi, homicide », se sont retournés du côté de l'estrade présidentielle, en escalade déjà les marches. Des urnes sont renversées, brisées, des poings tendus contre le président qui n'a plus d'espoir que dans l'intervention de la force armée et qui l'attend. Il a déclaré le vote clos. Que les soldats arrivent, ils peuvent encore tout sauver. Dans la cour, sur la place d'armes, sur le pavé extérieur, sur la terrasse, on crie « Aux armes ! Aux armes !» Le bruit s'est répandu d'un attentat contre l'idole du jour et mille clameurs supplient l'armée de sauver la nation. Mais cette force, à qui va-t-elle obéir ? À son chef, au général Mabel ? Mais Mabel n'est pas là, et le bruit court qu'il est emprisonné. Obéira-t-elle au président de l'Assemblée ? Mais on dit que les ministres, que les chefs du gouvernement accourent et que le président va être décrété d'accusation pour avoir violé la Constitution. À Jacques, sa renommée, sa popularité suffiront-elles à entraîner ses troupes qui n'ont jamais eu de contact direct avec lui ? Jacques ne peut véritablement disposer que de son bataillon. Après un instant de faiblesse, il a reconquis toute sa force, toute son énergie. On se presse autour de lui. Il demande un cheval, un capitaine lui cède le sien. Il revient alors vers ses coloniaux qui le reçoivent avec une tempête d'acclamations. Alors il réclame le silence et dénonce les révolutionnaires avec des paroles furibondes. « Ce sont des misérables, des traîtres à la patrie. J'allais leur indiquer les moyens de sauver la République et ils ont voulu m'assassiner. » Il est d'aspect sinistre. « Soldats, puis-je compter sur vous ?» s'écrie Jacques. Cette fois, il y eut une tempête d'acclamations, mais seuls les coloniaux criaient. Les autres troupes restaient de pierre. À ce moment, tout un groupe de représentants sortent en hurlant de la séance, portant le président qui est à moitié assommé. Il semble bien alors que les révolutionnaires, par leurs excès incroyables et aussi par leur courage, car ils sont encore le petit nombre, sont tout à fait devenus les maîtres du terrain parlementaire. Cependant, le président trouvera la force de crier aux soldats immobiles « Sauvez la République ! Expulsez ces factieux ! Le vote est acquis ! Le doom vira est proclamé !»« Vous l'avez entendu ! » s'écrie Jacques.
« Je confie à mes soldats le soin de délivrer la majorité des représentants de la nation. En avant, mes enfants !» Aussitôt, il se met à la tête de la petite colonne qui entre dans le château. Les tambours éclatent puissamment et pénètrent dans la galerie des bustes et font entendre des roulements ininterrompus pendant que les coloniaux s'avancent dans la salle du congrès et enchassent tous ceux qui s'y accrochent encore et qui parlent, tels Pagès et Coudry, de mourir sur place. C'est une besogne terrible. La vue des baïonnettes a jeté les révolutionnaires dans le plus sombre enthousiasme. Ils croient cette fois que tout est perdu. Ils se fixent sur leurs sièges, les soldats sont obligés de les prendre à bras-le-corps, comme on fait d'enfants indociles, et les déposent dehors. Et dehors, retentissent avec une violence inouïe des cris, des acclamations de « Vive la République !»« Vive Hérisson !»« Vive Flottard !» pendant que l'on entend la voix de Pagès hurler « À l'orangerie ! À l'orangerie ! Elle peut tenir au complet l'Assemblée nationale ! À l'orangerie ! Et créons un comité de salut public !» Jacques se précipite dans la cour pour voir ce qui se passe. Il se passe que la partie qu'il croyait gagner est à nouveau perdue. Il attendait Mabel et ses Flottards, son ministre de la guerre qui est arrivé, et le président du conseil. Tout cela qui représente encore le gouvernement établi, alors qu'il ne représente encore qu'une aventure ratée à cause d'un retard. D'un retard de 5 minutes. Ah, oh, s'il avait rejoint Mabel à leur dite place de l'Étoile. Des larmes de désespoir lui viennent aux yeux. Que peut son bataillon contre les troupes amenées par Flottard, contre les 2 escadrons de gendarmerie qui se meuvent au fond de la cour, devant la ligne qui n'a pas bougé, qui ne bougera pas, qui ne bougera jamais, tant qu'un général, et un général qui en aura le droit, ne lèvera pas son sabre. Hérisson a déjà donné l'ordre de fermer toutes les grilles, toutes les issues. Il veut que personne n'échappe. Il saura venger la liberté outragée, et sa première victime est désignée. Il s'agit d'arrêter le commandant Jacques. Pas facile à remplir cette besogne avec ce bataillon de coloniaux qui est prêt à mourir pour son ancien chef. C'est le ministre de la guerre qui s'avance. Il s'adresse à Daniel. Il lui ordonne de lui livrer le commandant Jacques. Daniel répond « Jamais, monsieur le ministre. Je suis un soldat, je ne suis pas un policier. » Dans la cour, tous les yeux sont fixés sur cette scène tragique. Le commandant Jacques, qui voit que tout est perdu, qui a croisé les bras sur sa poitrine et qui attend le dernier coup du destin, impassible et triste. Autour de lui, ses compagnons d'armes qui se pressent, qui lui jurent qu'ils ne l'abandonneront pas, qu'ils le suivront au bout du monde. « Daniel, » dit Jacques d'une voix calme, « le bout du monde pour moi maintenant, c'est le poteau. Nous avons fait tous deux notre devoir, et vous vous êtes assez compromis, mon pauvre ami. Votre sort, je le crains, ne sera guère meilleur que le mien. Livrez-moi, Daniel. » Jamais ! Écoutez les murmures de mes soldats. La partie est perdue. Je vous en conjure, laissez-moi passer. Que le sang ne soit pas inutilement versé à cause de moi. Et vous ne pensez pas que je laisserai des soldats français se battre contre une troupe française. Adieu, mes amis. » Alors Daniel prit son épée et la brisa sur son genou. Et il alla la jeter aux pieds du ministre de la guerre et de Monsieur Flottard, gouverneur civil du gouvernement militaire de Paris. « Voici mon épée, » dit-il, « et voici votre prisonnier. » Jacques s'avança. 2 gendarmes lui mirent les menottes. Pendant ce temps, Pagès, Coudry et toute la majorité extrémiste, réunis à l'orangerie, nommaient les membres d'un comité de salut public et votaient le rétablissement de la peine de mort en matière politique. Chapitre 20. La nouvelle terreur. Quand la première charrette apparut sur le quai, sortant du guichet de la conciergerie, portant la grappe de ses condamnés à mort, mains liées derrière le dos, cheveux coupés sur le col nu, l'immense murmure populaire qui montait des bords du fleuve depuis la première heure du jour s'apaisa d'un seul coup. Paris fit silence. Il était 2 heures de l'après-midi. Le soleil était écrasant. La peine de mort ne se cachait plus. Elle frappait en pleine lumière, et il fallait lui faire cortège jusqu'à la place de la Concorde, redevenue la place de la Révolution. Seulement, cette charrette était un camion automobile. Plus de haridelles, 40 chevaux vapeur, et c'était un chauffeur qui conduisait doucement, tout doucement, ce nouveau camion de la mort. Des gardes civiques étaient montés avec les condamnés sur la plateforme roulante et les entouraient, baïonnettes au canon. D'autres gardes, mais à cheval, cela, précédaient et suivaient. Et le sang allait couler, beaucoup de sang. Coudry l'avait dit, la République a besoin d'une saignée ou elle est fichue. Et malgré les efforts de Pagès, l'Assemblée nationale, réunie à Versailles dans l'Orangerie, avait dès sa première séance, qui avait suivi immédiatement l'arrestation du commandant Jacques et de ses principaux complices, proclamé la République en danger et rétabli la peine de mort contre tous les ennemis de l'État. Et la guillotine, en permanence, au cœur de Paris. C'est en vain que le grand orateur de l'extrême-gauche s'était élevé contre une loi de sang qui allait devenir la loi des suspects. C'est en vain qu'il s'était écrié qu'il ne fallait point, en ce beau jour, tacher la robe de la victoire républicaine. Mulot lui avait répliqué que cette robe était rouge et que le sang ne s'y verrait pas. Tout ce qu'on avait bien voulu lui accorder, c'est que les exécutions n'auraient pas lieu en masse, sous la volée des mitrailleuses, et qu'on leur laisserait certaines formes légales. Pagès, qui venait de faire voter l'institution d'un comité de salut public dont il avait été nommé président, avait dû se taire, sous peine d'une chute immédiate. Depuis 15 jours, travaillant jour et nuit, les débris de l'Assemblée nationale, constitués en une sorte de convention, rendaient décret sur décret, qui dépassait les pires souvenirs que nous pouvons avoir de la Commune et même de notre première Révolution. On n'avait pas à s'occuper du président de la République qui avait été comme oublié et qui, dès le premier jour, avait donné sa démission. Paris avait été divisé en 60 sections, livré administrativement au plein pouvoir des clubs qui avaient élu, dans chacune de leurs sections, 12 commissaires, tenus quotidiennement de rendre compte de leur mandat à leurs électeurs. Ces commissaires avaient pour principale mission de signaler les suspects au comité de surveillance élu par l'Assemblée de Versailles et siégeant à Paris. Ces suspects étaient envoyés, sur mandat délivré par ce comité de surveillance, au tribunal révolutionnaire. Les membres du tribunal révolutionnaire, siégeant au palais de justice, dans la grande chambre de la Cour suprême, était choisi par le comité de salut public sur une liste remise par les sections, chaque section présentant un membre. Les jugements du tribunal révolutionnaire étaient sans appel et exécutoires dans les 24 heures. Les sections avaient beau jeu. Elles étaient les maîtresses de Paris, depuis surtout que Flotard, le gouverneur civil du gouvernement militaire de Paris, leur avait fait distribuer des armes, avec mission d'exercer le plus grand nombre possible de gardes civiques du loyalisme desquels elles pouvaient répondre. Et pendant que l'on éloignait des grandes villes, autant que faire se pouvait, l'armée régulière et qu'on la massait sur les frontières, après une grandiloquente proclamation de paix au monde, les commissaires départementaux, expédiés dans toutes les régions par le comité de salut public, organisaient ou tâchaient d'organiser le système des sections et des gardes civiques en province. Certaines grandes villes, dominées tout de suite par les partis extrêmes, avaient suivi Paris. Mais il y avait une forte résistance dans d'autres villes qui venaient de déclarer qu'elles sauveraient la France de la Révolution. De ces centres de réaction, les commissaires du comité de salut public se plaignaient de ne pouvoir arriver à quelque chose qu'en faisant appel aux pires éléments de la population. « On ne croit pas à votre pouvoir », écrivaient-ils à Paris. « On juge votre révolution éphémère. Il faudrait un coup de tonnerre pour illuminer les populations. » Le coup de tonnerre arriva. Ce fut la première charrette. Et pour arriver place de la Révolution, on lui fait faire le tour des boulevards. Au coin du boulevard Haussmann, prolongé dans un salon du café Werther où quelques puissants du jour se sont réunis pour assister, derrière un rideau soulevé, au passage de la chose et à l'effet produit, il y a une grande discussion et une certaine inquiétude. Coudry fulmine contre le comité de salut public et surtout contre Pagès, qui l'accuse de modérantisme. C'est de la faute de ce dernier si l'on n'a point chauffé Paris à blanc, si l'on n'a point organisé des manifestations nécessaires dans un pareil moment. La colère du jeune révolutionnaire ne fit que grandir quand Gravely, qui venait rendre compte de la situation à Mulot, devenu délégué à l'intérieur en remplacement de Hérisson, il n'y avait plus de ministre, s'étendit avec béatitude sur le calme de la population. Ils furent écrasés tous les deux. « Alors, vous êtes satisfait ?»« Certes, oui, elle est calme, la population. » « Elle a disparu. Elle se cache derrière les fenêtres. Alors, vous croyez que c'est pour ça que nous travaillons au comité de surveillance ?» dites, pour que vous organisiez une procession autour de laquelle ceux qui suivent ont l'air de pleurer sur les victimes du tribunal révolutionnaire. Non, Dieu, il fallait faire galoper le peuple derrière la charrette. Il fallait déchaîner vos hurleurs. Mais je ne vois que des soldats, des gardes. Les boulevards devraient crever de populos. Il rageait, il écumait. Habitué à ses sorties, Mulot haussait les épaules, caressait sa moustache et sirotait son petit verre. Sur ces entrefaites, Pagès entra. Il était très pâle. « Ah, voilà le bourgeois !» le salua Coudry. « Le bourgeois, c'est vous !» fit Pagès d'une voix grave, en s'asseyant et en essuyant de son mouchoir à carreaux la sueur froide qui perlait à son front blême. « C'est vous qui faites une révolution bourgeoise !» et qui refait toutes les fautes de la bourgeoisie. Si elle ne vous plaît pas, notre révolution, sortez-en !» lui cria Coudry. « Vous m'épouvantez, Coudry. Vous et vos amis, vous nous poussez dans une voie où nul ne sait quand il s'arrêtera. » « C'est le propre des révolutions, mon cher !» répliqua Coudry. « Encore une fois, vous voulez mettre trop d'ordre dans la révolution, c'est ce qui vous perdra. » Est-ce que le sub d'Amoun n'aurait pas dû payer le premier? Est-ce qu'on ne lui devait pas une première charrette d'honneur? Qu'attend-on? Voilà ce que le peuple de Paris ne comprend pas. Vous lui donnez des complices, et vous semblez vouloir épargner l'auteur principal. Certes, accorda Pagès, je vous abandonne le sub d'Amoun, et même ses principaux aides, les Lavaubourg et autres traîtres à la République. Et ce n'est pas moi qui retardais d'une minute l'heure de leur châtiment. « C'est moi !» déclara Mulot. « Et vous savez bien pourquoi. Nous avons tout intérêt à ne les livrer aux bourreaux que lorsque nous n'ignorerons plus rien du complot. Ils peuvent encore nous être utiles pour certaines confrontations. Du reste, tout va être bientôt fini. Du moins, je l'espère. N'est-ce pas, Gravely ?» Le chef de la sûreté politique, qui avait été faire un tour sur le boulevard et qui venait de rentrer dans le cabinet de ces messieurs, répliqua. « Celui qui nous manque, et qui nous manque bien, c'est le baron d'Ascoff. Le baron d'Ascoff avait tout organisé chez la belle Sonia. Or, je suis à peu près sûr que nous allons mettre la main sur le baron aujourd'hui même, ou demain ou plus tard. » Nous allons connaître aussi la retraite de la famille du Touchet, et 48 heures ne se passeront pas avant que la marquise et sa fille adoptive, la fiancée du sub d'Amoun, n'aient rejoint le commandant à la conciergerie. Coudry demanda. « Qu'est-ce qu'elle dit à la conciergerie, la belle Sonia ?»«
Paraît qu'elle s'amuse. Oui, elle fait salon. Elle joue au petit jeu de société. »
« Sale cabotine !» fit Coudry avec une moue de dégoût.
« On dit aussi qu'elle a été la maîtresse d'Ascoff. À propos d'Ascoff, je vais vous donner un conseil, Cravely. Tâchez de nous le livrer pieds et poings liés avant 24 heures, ou je ne réponds plus de vous.
Hein ?» fit Cravely en pâlissant.
« Je crois être à peu près sûr.
Oui, ce que je vous en dis, c'est pour votre bien. Je vous avertis que le conseil de surveillance et le comité de sûreté générale ont décidé de demander au comité de salut public votre renvoi et même une enquête sur votre magistrature si vous n'arrêtez pas Ascoff demain soir au plus tard. Nous sommes persuadés au comité que c'est lui la clé de toute l'affaire. C'est lui qui a été le truchement nécessaire entre Subdamoun et tous les autres. Ne pas nous le livrer, c'est se faire son complice.
« Voilà 8 jours que je le lui dis, » appuya Mulot. « Cravely a eu beau, dans la journée de Versailles, nous livrer 100 de partisans de Subdamoun, et non des moindres, et faire du zèle, et il a beau être mon homme, comme il a été celui de Carlier, le comité de salut public l'aurait déjà dégommé s'il ne nous avait promis Ascoff et la marquise du Toucher.
« Vous les aurez, vous les aurez !» affirma Cravely. « Je vous jure, messieurs, que je fais tout ce que je peux. J'attends ici même un agent qui doit me dire quand et comment nous allons arrêter le baron qui n'a pas quitté Paris. » À ce moment, 3 coups de sifflet des plus aigus se firent entendre sur le boulevard. Cravely alla rejoindre Coudry à la fenêtre.
« Je crois bien que le voilà, mon agent, » fit le chef de la sûreté politique, de plus en plus ému, car cette idée de la perte de sa place et de cette enquête sur sa magistrature l'avait complètement bouleversé. Il avait rapidement écarté le rideau et fait un signe. Aussitôt, un ignoble gamin jeta sa casquette en l'air en regardant du côté de la fenêtre. Puis, après 3 autres coups de sifflet, il disparut.
« C'est ce voyou, votre agent ?» demanda Coudry.
« Non, ce voyou est l'éclaireur de mon agent. C'est un gamin nommé Mazeppa, une affreuse petite crapule qui nous rend de grands services. Il vient de me faire comprendre que j'ai un très grand intérêt à ne pas quitter ce café et que mon agent va venir m'y retrouver incessamment. » Puis, baissant la voix, il ajouta « Monsieur Coudry, moi, je ne demande qu'à vous faire plaisir et à vous être utile, à vous et à la nation. » J'ai un service d'ordre terrible. Toutes les sections sont sous les armes, comme vous pourrez le voir, formant la haie sur tout le parcours. C'est le peuple lui-même qui fait le service d'ordre. Il est en quelque sorte militarisé et ne peut donc pas manifester. Mais si vous voulez que je fasse donner mes hurleurs, je les tiens, tout près, place de la Révolution.
Vos hurleurs, on les connaît. Il n'y a pas de raison pour qu'ils interviennent,
répliqua Coudry en tambourinant la vitre de ses doigts noueux. « Tant que la rue restera aussi calme, ou l'on nous accusera encore de provocation. »
« Eh, j'ai bien une contre-manifestation qui attend les événements, à 300 mètres d'ici. Je vais lui envoyer l'ordre de crier sur le passage de la charrette. »«
Voilà mon homme !» s'écria-t-il tout à coup, et il quitta rapidement le cabinet. Coudry essayait de distinguer dans la foule qui encombrait les trottoirs, derrière la double haie des gardes civiques, celui que le chef de la sûreté avait appelé « mon homme ». Mais il ne vit rien de particulier qui pût le renseigner à cet égard. Chapitre 21. Où nous reprenons contact avec d'anciennes connaissances. Dans le couloir, Cravely fut arrêté par l'un de ses agents qui venait lui faire un rapport. Il prit encore le temps de lui donner des ordres à porter au chef des contre-manifestants. « Dites bien qu'il fasse crier « À mort les assassins! Vive le Subdamoun !» et qu'il y ait bagarre jusqu'à la place où vous ferez donner les hurleurs. »«
Qu'est-ce qu'ils crieront, ceux-là ?
Demanda l'agent.
Vive le comité de l'hôtel de ville !
Compris, fit l'homme qui savait que son chef venait de quitter Coudry, lequel commençait à tourner sa politique du côté de la commune.
Cravely, alors, descendit, mais il chercha en vain le personnage qui l'intéressait tant. Il s'adressa à un gérant qui n'était ni plus ni moins que l'ancien valet de chambre de la Vaubourg. L'ex-larbin avait été rejeté dans la limonade par le malheur des temps. Mais l'homme ne put lui donner aucun renseignement utile.
« Je remonte au premier, » lui dit Cravely. « Quand vous apercevrez Papa Cacahuète, vous lui direz où je suis. »«
Entendu, chef. »
Cravely ne se gênait pas avec ce gérant qui était de la boîte et qui avait échappé au sort de son maître, en donnant sur celui-ci tous les détails que le comité de surveillance et la sûreté lui avaient demandés, et même ceux qu'on ne lui demandait pas.
Quand Cravely fut remonté, le gérant laissa tomber sa serviette, et en la ramassant, dit à un client d'aspect étrange, dont la coupe de cheveux, la barbe, la casquette et toute la mise rappelaient d'assez près le type étudiant révolutionnaire russe, et qui paraissait assoupi sur une table où traînaient les restes d'un frugal déjeuner.
« Salade !»«
Hein ?» fit le client en tressaillant et en soulevant ses paupières appesanties derrière de grosses besicles de myope.
« Salade !» répéta le gérant. « Papa va venir. Il a rendez-vous avec le dab de la surtaille. »
Le client fit un mouvement comme pour s'enfuir.
« Restez donc !» lui dit le gérant en débarrassant le couvert. « Je vous assure que monsieur n'est pas rembrocable. »
« Reconnaissable. »«
Oh, est-ce qu'on sait jamais avec lui ?» murmura l'autre. « Enfin, on verra bien. C'est un coup à tenter. »« Ah, si seulement la blanchisseuse pouvait venir !» Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a plus d'une demi-heure de retard.
Les rues sont difficiles en ce moment. Tenez, la voilà. En effet, au fond du café, une porte qui donnait sur une rue de derrière venait de s'ouvrir, et une petite ouvrière blanchisseuse, coiffée d'un bonnet sur une tignasse noire admirable, portant au bras un énorme panier, faisait son entrée et traversait rapidement l'extrémité de la salle, pour descendre un escalier qui se perdait dans le sous-sol. Le gérant s'était éloigné un instant. Il revint bientôt en disant à son client « On demande monsieur au téléphone ». Le client se leva et descendit à son tour au sous-sol. Mais sur le chemin qui conduisait aux cabines téléphoniques, une porte s'entr'ouvrit. L'homme la poussa et la referma. Il se trouvait dans une petite pièce qui servait de débarras pour le linge et où se réglaient à l'ordinaire les comptes des blanchisseuses. Il embrassa celle qu'il avait devant lui.
« J'ai cru que tu ne viendrais jamais, Vera. »«
Sais-tu que tu es admirablement maquillée ?» dit la baronne. « Si tu ne m'avais pas parlé, je ne t'aurais jamais reconnue. »«
Tant mieux, » fit Askoff. « Papa n'est pas loin. »«
Non !» s'exclama-t-elle déjà agitée. Mais son mari la calma.
« Oh, il ne m'a pas vue, il n'est pas encore arrivé. Il vient pour Cravely, qui l'attend en cabinet particulier. Et je pense bien, comme toi, qu'il ne me reconnaîtrait pas. »«
Oui, mais il me reconnaîtrait, moi, » dit la femme.
« Ça n'est pas sûr, mais ne perdons pas de temps. Ta dernière lettre me faisait espérer... »
« Justement, c'est peut-être ce soir que je vais lui porter son linge. »«
Tu as donc enfin l'adresse de l'endroit où elle se cache ?»«
Non, pas encore, mais il faudra bien que la patronne me la donne. La marquise doit en être à sa dernière chemise. »«
Es-tu sûre qu'il s'agit bien de la marquise du toucher ?»«
Eh, parbleu, oui. La patronne connaît bien son linge, peut-être. Il y a des années qu'elle l'a blanchi. »
Ah, si nous connaissions sa retraite, ce serait un fameux coup, tu sais. Si nous avions la belle Cécilie entre les mains et Mademoiselle de la Morlière, nous pourrions exiger du coup tout ce que nous voudrions de Papa Cacahuète.
En attendant, demanda Vera.
En attendant, ça ne va pas trop mal. On se détache de lui.
J'en ai en ce moment 10 dans la main, tu entends ? 10 fameux qui en avaient la terreur, comme moi. Eh bien, je leur ai parlé. Je leur ai fait comprendre que ça ne pouvait pas durer comme ça et qu'il fallait profiter du chambardement de tout pour nous débarrasser de cet ogre qui nous mange. Et, ma foi, ils l'ont plaqué, eux aussi. Avec nos 11 peurs, nous allons peut-être bien faire une force, avec laquelle Papa Cacahuète devra bientôt compter. D'autant plus qu'il est un peu affolé, tu sais, le bonhomme, depuis son coup d'état à la manque. Ça lui a fichu un coup. D'abord, il s'était installé avec sa garde dans la cour de l'hôtel à Versailles. Il était arrivé à faire distribuer à ses poteaux des cartes de civisme qui venaient du club de l'Arsenal. Avec ces cartes-là, il faisait ce qu'il voulait. C'est ainsi qu'il s'était fait donner la garde de la belle Sonia et de la Vaubourg, par Pagès lui-même. Son but était évidemment de faire évader la belle Sonia et de livrer la Vaubourg, qui avait trahi le Subdamoun, trop tard pour que les révolutionnaires lui en montrassent beaucoup de reconnaissance. Or, il est arrivé que, préoccupé uniquement du sort du Subdamoun qui venait d'être arrêté, papa oublia de donner des ordres en conséquence à ses poteaux. Et quand il revint retrouver ses hurons, comme il les appelle, ceux-ci avaient rendu à la fois la belle Sonia et la Vaubourg à la bande de Pagès, qui était revenue les leur chercher. C'est ainsi que Sonia et la Vaubourg ont été envoyées tout de suite à la conciergerie, où le Subdamoun, lui, ne fut transféré que dans la nuit. Je te dis que papa ne sait plus où donner de la tête.
Nous ne viendrons jamais à bout de ce monstre, soupira Vera.
Allons donc, que le cher petit Jacques éternue dans le son et il ne restera plus rien de chez B.
Le baron d'Ascoff allait prononcer le nom, mais d'avoir seulement osé commencer à souffler la première syllabe de cela, il pâlit et s'arrêta. À ce moment, la porte s'ouvrit tout doucement, et le faux étudiant russe et la fausse blanchisseuse reculèrent épouvantés. Le père Cacahuète lui-même venait d'entrer et refermait la porte aussi doucement qu'il l'avait ouverte.
« Pardon, excuse la compagnie, » fit-il d'une voix presque éteinte. « Mais monsieur et madame la baronne me pardonneront certainement mon indiscrétion quand ils sauront ce qui m'amène. »
Jamais il n'était apparu aussi misérable, aussi pitoyable. Ses épaules s'étaient encore courbées et sa tête, lamentable, pendait sur sa poitrine, comme si les vertèbres cervicales avaient perdu la force de la soutenir, ballottaient, était agité de droite et de gauche d'un mouvement nerveux, incessant, qui forçait à détourner le regard, tant le spectacle en était pénible. Vera avait reculé jusqu'à la muraille, elle ne bougea plus, hypnotisée par la mauvaise bête surgie au milieu de son chemin. Quant à Ascoff, il eut un grondement, une révolte rapide de sa solide mâchoire, une injure entre les dents, au mauvais sort qui le faisait toujours le jouet du monstre. Enfin, le petit vieux soupira.
« Monsieur le baron, pardonnez-moi. Il faut que je prenne le temps de me remettre. J'ai tant couru. Figurez-vous que je craignais de vous manquer, vous et madame la baronne. Et comme vous m'êtes tous deux infiniment sympathiques, je ne me le serais jamais pardonné.
Trêve de plaisanterie, papa !» coupa court Ascoff d'une voix blanche. « Comment avez-vous su que nous devions nous voir ici ?»
Déjà, il soupçonnait l'ex-larbin de la Vaubourg de l'avoir vendu.
« Hé hé !» gloussa le vieillard. « Hé hé ! Nous avons la même blanchisseuse. Hé hé ! Une petite blanchisseuse de la rue aux Phoques, mes enfants, qui blanchit tous mes amis, tous les amis du père Cacahuète. »
Maison bien tenue, n'est-ce pas, mon enfant ? Fit-il à Vera.
Ascoff eut un râle d'admiration à l'adresse du bandit roi. Il pensait, même ça ? Il avait même ça ? Leur blanchisseuse ?
et quand, pour eux, il s'était agi de fuir après la fâcheuse histoire du coup d'État, quand ils avaient voulu échapper à la fois aux griffes du nouveau gouvernement et à celles de Chiribibi, c'était la blanchisseuse de Madame la Baronne. Laquelle était la blanchisseuse de Chiribibi ? La blanchisseuse de Chiribibi, qui avait offert ses bons offices, qui avait fourni un déguisement à Vera et qui avait gardé Vera chez elle comme une petite ouvrière repasseuse en attendant des temps meilleurs et les ordres de Chiribibi. Pendant ce temps-là, lui, le baron, dans les faubourgs, se faisait passer pour un communiste russe avec quelques amis traîtres comme lui aux marchands de cacahuètes. Ah bien, encore une association secrète dont Chiribibi avait bien dû rire. Askov aurait parié maintenant que le père Zim, le patron du bouchon artistique, plein de vieux tableaux et de bric-à-brac qui les accueillait, les nourrissait et leur donnait à boire, était encore un homme de Chiribibi. Mais Chiribibi ne s'occupait pour le moment que de la baronne. « Madame la baronne, tout à l'heure, vous allez rentrer au magasin, vos courses faites. Vous pénétrerez dans le bureau de la patronne. Cette chère dame vous attend dans le petit cabinet où elle range ses livres de compte. Elle vous attend à la fenêtre. J'aime mieux vous en prévenir tout de suite pour que vous ne soyez pas trop surprise en arrivant. Elle vous attend, pendue à la fenêtre. » La petite blanchisseuse, à ce mot, commença à basculer de sa chaise, mais la patte formidable de Chiribibi la remit en place. Sur son petit pupitre, la patronne a laissé une petite lettre où elle dit adieu à son petit ami. Pour tout le monde, cette chère dame sera morte d'amour. Morte d'amour à son âge. Elle avait 52 ans. Mais il n'y a pas d'âge pour les braves, ni pour les imbéciles. Nous qui sommes malins, madame, nous savons de quoi cette pauvre femme est morte. Il n'y a pour cela qu'à regarder sa langue. Quand vous entrerez dans le petit cabinet de la blanchisseuse, regardez la langue de la blanchisseuse pendue à la fenêtre. Cette langue est d'une longueur. Madame la baronne, madame la blanchisseuse, votre patronne, est morte d'avoir eu la langue trop longue. Vera était prête à s'évanouir. Askov intervint, pâle et solennel, car il voyait Chiribibi les tuant comme des chiens tous les deux, à la seule idée que la baronne et lui pouvaient soupçonner le lieu de la retraite de Cécilie. Askov jugeait que jamais encore il n'y avait eu une minute aussi grave entre ce maudit marchand de cacahuètes, la baronne et lui. Et maintenant parlons de cette chose pour laquelle je suis venu vous déranger, mon cher Askov. Vous allez m'aider à sortir le subdamoun de sa prison. Et que faut-il faire pour cela ? Demanda Askov en enfonçant ses ongles dans sa main tremblante d'impuissance. « Que faudra-t-il faire pour le faire sortir de sa prison ? » répéta le vieillard en caressant ses énormes mains. « Eh bien, mais pour cela, monsieur, il vous suffira d'y entrer. »« Comment voulez-vous que j'entre à la conciergerie ? » demanda Askov. « La tête de mon mari est mise à prix, on le recherche partout. » gémit la blanchisseuse. « On le reconnaîtra tout de suite. Vous voulez donc le perdre ? S'il en est ainsi, dites-le donc, et assez de nous torturer. » « Comme vous l'aimez !» fit Chiribibi le plus sérieusement du monde. « Mais moi aussi je l'aime. Je l'aime parce que j'ai besoin de lui. Aussi rassurez-vous, je vous le ramènerai, mort ou vivant. »« Ah, mon Dieu !» pleura Vera. Enfin, je ferai ce que je pourrai, et vous savez que le père Cacahuète peut tout ce qu'il veut, surtout quand on fait exactement ce qu'il ordonne. Et si vous voulez m'en croire, chère madame, vous allez dire tout de suite au revoir à votre époux et retourner rue aux Phoques, sans tourner la tête. Mais vous m'entendez bien, sans tourner la tête, quoi qu'il arrive, quoi que vous entendiez. « Et quoi que l'on vous dise, il n'arrivera que ce qui doit arriver. Pour notre bonheur à tous, ma petite baronne. »
Chérie Bibi entr'ouvrit la porte. Elle partit lentement avec sa corbeille de linge au bras. Des larmes coulaient sur ses joues. Elle voulut parler, mais elle n'en eut pas la force. Du reste, la porte se refermait sur elle. Chérie Bibi allait reprendre sa conversation quand le bruit d'une altercation se fit entendre au fond du couloir. Il y eut un piétinement, un tumulte de voix, et tout à coup un cri strident.
« Ne sors pas !»
Askov voulut se jeter sur la porte, mais Chérie Bibi lui barra le passage.
« Tu entends pourtant bien qu'elle te crie de ne pas sortir. »«
Qu'y a-t-il ? Que se passe-t-il » fit-il haletant.
« Je vais te le dire, » répliqua l'autre rudement. « Mais tu vois combien il est difficile de travailler avec des femmes. Je lui ai ordonné de passer son chemin, quoi qu'elle vit, quoi qu'elle entendit. La première chose qu'elle fait en sortant d'ici, c'est de crier, la sotte.
Mais pourquoi a-t-elle crié ?
Parce qu'elle a vu le couloir plein d'agents qui viennent te chercher.
Hein ?
Ne t'émeux pas, ils n'entreront ici que lorsque j'en sortirai. Il est entendu qu'on ne doit pas troubler notre entretien. Comprends donc que si je suis forcée de te livrer à Kravli, il y va entièrement de ta faute et fais-en ton mea culpa.
J'avais la confiance de Kravli, continua Chérie Bibi. Tu as tout fait pour l'ébranler, toi et tes amis. Tu lui as si bien fait dire qu'il eut à se méfier du père Cacahuète qu'il hésite maintenant à marcher complètement avec moi. Et je n'ai jamais eu autant besoin de lui depuis que le petit est en prison. Mon cher, je ne retrouverai toute la confiance de Kravli qu'en lui faisant cadeau d'Askov. As-tu compris, mon ami ?
Oui, Askov avait compris.
« Tu me livres ! » s'écria-t-il.
« C'est pour mieux te sauver, mon enfant. Toi et le Subdamoun. Tu penses bien que tu vas me servir là-bas. Et crois-tu que c'est un coup de maître, ça ? Je répare en une fois, mettons, tes inconséquences, je te les fais expier, et par conséquent, je n'ai plus à te les reprocher. Je sauve le Subdamoun, et toi, par-dessus le marché, ça va de soi. Enfin, je reconquiers toute la confiance de Kravli. Allons, baron d'Askov, vous devriez me féliciter. Et maintenant, adieu, et compte sur moi. »
La rage et l'impuissance où il était de la soulager livrèrent quelques secondes Askov à des mouvements aussi inconscients que désordonnés. Mais quand il eut bien montré sur sa face ravagée la haine atroce qu'il nourrissait pour Chérie Bibi et sa fureur d'avoir à risquer sa propre tête pour sauver celle d'un frère qui l'aurait conduit avec joie au supplice, il dut cependant s'incliner, c'est-à-dire qu'il s'effondra.
« Comment communiquerons-nous à la conciergerie ? » demanda-t-il dans un souffle.
« Par l'inspecteur des prisons, un ami intime, délégué du comité central de surveillance. »
« Non !» grogna Askov qui ne comprenait plus. « L'inspecteur des prisons, délégué du comité central de surveillance, est ton ami ? Et tu as besoin de moi pour enlever Subdamoun de la conciergerie ?»«
Espèce de niais ! Mon ami n'est pas encore nommé à son poste. »
« Et quand le sera-t-il ? »
Kravli ne le fera nommer que lorsque je lui aurai livré le baron d'Askov. As-tu compris, mon ami ?
Oh ! C'est tout ce que put dire Askov. Décidément, le dab était toujours le dab. Il n'y avait pas à lutter avec lui.
« Allons, allons, tout ce que tu voudras, » fit-il. « Je suis à toi. Fais-moi arrêter quand tu voudras. »
Chérie Bibi lança un coup de sifflet. Puis, ramassant son baril, il ouvrit la porte et s'en alla. Au fond du couloir, il y avait 20 agents qui s'emparèrent d'Askov, lequel ne fit aucune résistance et subit, résigné, l'étreinte des menottes. Il fut traîné au milieu de la salle. À une porte de la rue, un taxi l'attendait dans lequel on le jeta et qui prit aussitôt le chemin de la conciergerie. Dans l'escalier qui conduisait au cabinet particulier du premier étage,
le marchand de cacahuètes suivait un homme radieux. L'homme radieux ouvrit une porte et poussa le marchand dans une petite pièce où, sur une table, se trouvait tout ce qu'il fallait pour écrire. Le marchand avait une feuille à la main. « Il me faut signer ça tout de suite. »« Tout ce que vous voudrez, papa cacahuète, » obtempéra Cravely. « Mais êtes-vous sûr que le complot soit si redoutable ?»«
Eh, toute la conciergerie en est. Il s'agit pour les prisonniers d'assassiner leurs gardiens. On doit leur apporter des armes. »
« Et si on transférait le subdamoun dans un autre local ?»«
Gardez-vous-en bien, il ne faut rien laisser paraître, et nous aurons bientôt tout le fond du sac. Seulement, il me faut un inspecteur des prisons absolument sûr. »«
Vous me répondez de celui-là ? Qu'est-ce qu'il faudra que je dise à Coudry quand je lui demanderai d'appliquer le sceau du comité sur la nomination ?»«
Que c'est absolument urgent, et que l'homme est cet Hilaire. » secrétaire du club de l'Arsenal, qui, avec une douzaine d'amis, a retenu prisonnier à Versailles la Vaubourg et la belle Sonia dans une salle d'hôtel.
Ah, très bien, parfait. Du reste, il fera tout ce que je voudrai quand j'irai lui annoncer la prise d'Ascoff.
Et Cravely signa.